Louis Pergaud, La Fontaine et la psychologie animale. Ah, que les fabricants de préfaces sont ennuyeux. Contemporains, admirateurs, importuns ou démarqueurs, pillards à temps la ligne, ils vous campent avec quelques récits plus ou moins exacts, les réputations qui résistent au siècle, et n'ajoute rien à la gloire de celui qu'il prétend servir. Et c'est pourquoi, ouvrant les fables de La Fontaine, vous êtes prévenu dès la première page que vous avez affaire à un bonhomme distrait, naïf, et en même temps, ce qui paraît bien un peu contradictoire, observateur scrupuleux, attentif et passionné de la nature et des animaux. Suit la fameuse relation du voyage à Château-Thierry, que je me garderai bien d'attaquer, puisqu'elle a permis à Edmond Pilon d'écrire un petit chef-d'œuvre, puis l'inévitable chapitre de M. Nisard, je crois, sur la fable qui plaît aux enfants, parce qu'ils y reconnaissent les mœurs des animaux. Il m'est difficile de présumer que les petits nègres qui liront dans quelques siècles les fables de La Fontaine reconnaîtront ou non les mœurs du lion, mais je sais bien que les enfants que j'ai pu voir ne reconnaissent rien du tout, pour la bonne raison que pour reconnaître, il faut d'abord connaître, et qu'ils ne sont justement des bêtes. Une idée, et grâce aux fables, un caractère faussé, humanisé, dont leurs compagnons à quatre pattes n'ont que trop souvent à plaindre. Mais pour que M. Lizard jugeât bien, il aurait fallu qu'il connût les bêtes, les enfants, les hommes, et peut-être aussi les fables. Et, oh, c'était un critique, cet homme. Dame, il ne pouvait pas tous connaître. Aussi bien la cause première de la légende, l'enterrement de la fourmi, mérite bien plus d'être réfutée. On connaît l'anecdote, certains jours que la compagnie était particulièrement nombreuse et choisie, le poète oublia l'heure du dîner et arrivant très en retard, allégua pour s'excuser qu'il avait assisté à l'enterrement d'une fourmi, suivi le convoi jusqu'au cimetière et reconduit au logis les compagnons de la défunte. En supposant que fut vraie l'anecdote et que La Fontaine ait réellement parlé de la chose, ce dont nous ne pouvons faire absolument sûr, ne faudrait-il pas plutôt voir dans cette réponse le prétexte galant, spirituellement allégué par un poète plein d'esprit et d'à propos pour s'excuser d'avoir, en rêvant, oublié sa promesse et fait attendre des gens de qualité? Car le fait en lui-même apparaît comme contraire, sinon en tout point, du moins en grande partie, à la vérité logique et expérimentale. Il est en effet fort possible que La Fontaine, rêvant, se soit attardé à la contemplation d'une fourmilière, ou qu'il ait pu suivre avec intérêt l'évolution d'une fourmi ou d'un groupe de fourmis. Mais ici commence la fantaisie, car le récit qui suit est en contradiction même avec le caractère de convention avec le fabuliste accorde à la fourmi. L'action se passait nécessairement en été, par conséquent dans la saison où la plus grande activité règne parmi la fourmilière. Or, la fourmi est morte en chemin. Il est absolument indubitable que les autres fourmis l'ont abandonnée là où elle était, puisqu'elle n'encombrait personne et ne gênait nullement la vie de la collectivité. Tout au plus, si elle portait quelque chose au logis, l'a-t-on débarrassée de son fardeau, qui ne faisait pas laisser perdre, et mise de côté après un rapide examen pour déterminer les causes probables de sa mort. Mais si, comme le laisserait plutôt supposer l'allure du récit, c'est à la fourmilière même qu'elle est morte. Il est bien plus contraire encore aux instincts de la fourmi de supposer une longue théorie de ces laborieux insectes accompagnant, pour des raisons sentimentales, la dépouille de l'un d'entre eux. Où l'eussent-elles l'accompagnée? Au cimetière des fourmis, dit La Fontaine. La trouvaille est évidemment délicieuse, mais c'est pourtant par trop faire agir les fourmis comme les humains. Les bêtes se conduisent toujours, ou presque toujours, d'après la logique de deux instincts plus ou moins nuancés, l'instinct de conservation et l'instinct de reproduction. Et la fourmi, l'ouvrière du moins, celle qu'on a le plus souvent lieu d'observer pour des raisons d'ordre purement physiologique, puisque asexuée, n'a pas à s'embarrasser du second. C'est ce qui en fait une créature essentiellement laborieuse, et, si l'on peut dire, pas du tout portée aux rêveries, plus ou moins troubles, du sentiment dont l'instinct sexuel complique et nuance les états d'âme des bêtes selon les espèces et les individus. Elle vague à l'approvisionnement, à la propreté, à l'ordre et à la défense de la colonie. Si donc il s'est trouvé par un jour d'été une morte encombrant de son corps, se décomposant, les couloirs ou les greniers de la fourmilière, il a suffi à une ou deux ouvrières, au plus, de la saisir entre leurs premières pattes et les transporter à quelques pas de la colonie, afin qu'elle ne soit plus une cause de gêne pour le fonctionnement normal de la société. Mais supposer le travail commun, interrompu en totalité ou en partie par un accident ou un incident commun, en somme, et sans doute fréquent, l'abandon de la cité sans défenseur et sans gardien, pour rendre un problématique honneur funèbre à un obscur membre de cette société, est bien un rêve de poète. Un rêve idéalisé prodigieusement. Car si les hommes, pour des motifs plus ou moins égoïstes, suivent le cercueil d'un de leurs, plus la condition de celui-ci est humble et moindre, et les conséquences, la théorie de ceux qui l'accompagnent. C'est donc bien un serment d'excuses mondaines, originales et poétiques, qui dicta au poète ce récit sur lequel, avec quelques autres du même genre, s'est édifiée la légende d'un La Fontaine, psychologue raffiné, scrupuleux, observateur des bêtes. Il n'est pas nécessaire de suivre bien loin le fabuliste pour découvrir que la vérité est tout autre. Et il a fallu l'admiration forcenée et intempestive de quelques contemporains d'abord, plus tard, l'ignorance ou l'incompréhension de certains critiques pour lui forger une réputation que, de son vivant, sa nonchalance de rêveur se garda bien d'attaquer et qu'on laisse doucement se perpétuer. Lui-même, dans la dédicace au dauphin, s'exprime ainsi: Je chante les héros dont Ésope est le père. Et plus loin, pour préciser encore ce que cette déclaration pouvait avoir d'ambigu, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Ce qui indique nettement quelle était sa source d'inspiration et son but. La Fontaine, en effet, n'a vu le caractère des animaux que dans la convention créée avant lui et en dehors de lui, par ses maîtres de direction, Ésope surtout, Phèdre, qui n'a fait souvent que traduire purement et simplement les auteurs divers du roman de Renard et des fabliaux du Moyen Âge. Non, 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 il y a une mélange de lignes. Reprenons. Ah ben non, 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 reprenons là. après Moyen Âge. Or, pour savoir si La Fontaine a biffé tout ce que je viens de dire. Reprendre donc à 9-10. Or, pour savoir si La Fontaine a fait des animaux une psychologie exacte, il faudrait déterminer si Ésope ou les auteurs de Fabliau, qui furent eux-mêmes plus ou moins des admirateurs d'Ésope, observèrent les bêtes. Il n'en est rien. Outre que les observations assez restreintes, d'ailleurs, faites jusqu'à ce jour, autoriserait à proclamer que non, à moins toutefois, ce qui est invraisemblable, que les mœurs des bêtes aient changé prodigieusement d'Ésope à nos jours, on peut inférer du caractère et de la vie d'Ésope, tels qu'ils nous sont connus, que ce fut le moindre des soucis du Phrygien. Il suffit de se rappeler en effet comment, dans quelles circonstances, et pour quel motif fut composé l'apologue des loups et des brebis, transposé presque littéralement par La Fontaine. Il n'y avait pour Ésope qu'un but essentiellement utilitaire, l'art délicat et dangereux de faire entendre à des hommes grossiers et susceptibles à l'excès ces vérités qu'il eût été imprudent de présenter toutes nues. Or, les animaux de La Fontaine sont ceux d'Ésope même, ceux-là même qui enseignaient la raison aux hommes. Ils agissent donc comme des hommes, souvent pleins de raison et d'esprit, comme le Phrygien dont ils concrétisent les idées et les sentiments, les haines et les ruses. Les animaux de La Fontaine sont les fils spirituels d'Ésope. Mais ils se sont adaptés au siècle et ont parlé la langue de La Fontaine. C'est quelque chose. Il n'est guère qu'un cas où La Fontaine se soit permis, dans une espèce de préface, de critiquer le caractère d'Ésope. C'est dans la fable Le loup et le renard. Mais d'où vient qu'au renard, Ésope accorde un point? C'est d'exceller en tour plein de niaiseries. J'en cherche la raison et ne la trouve point. Et j'oserais peut-être, avec quelque raison, contredire mon maître. Il faut avouer que ce choix de contradiction est plutôt fâcheux, car le caractère du renard est justement un de ceux qui restent à peu près campés d'une façon exacte. Mais où apparaît l'ignorance du poète? C'est dans l'aveu du troisième vers. J'en cherche la raison et ne la trouve point. Il est en effet absolument inadmissible qu'un homme s'intéressant aux animaux, aimant de la nature, auteur des promenades en forêt, amateur, fort ignoré des nombreux traits de ruse, puisse ignorer les nombreux traits de ruse et de finesse dont sonore chaque jour l'hôte des terriers. C'est d'ailleurs un animal suffisamment connu, un voleur assez familier pour qu'on puisse l'observer facilement, pour peu qu'on veuille s'en donner la peine. Ce simple aveu-là serait suffisant, déjà, je crois, pour creuser une forte brèche dans la réputation d'observateur des bêtes qui le fut si bénévolement confirmé. Mais il est d'autres raisons encore plus péremptoires encore. Sans revenir sur cette idée que les animaux ont endossé tous les vices et tous les travers de l'homme, selon le bon plaisir d'Ésope ou la fantaisie plus ou moins ingénieuse des conteurs du Moyen Âge, on doit toutefois remarquer une parfaite analogie entre les caractères des personnes du roman de Renard et ceux des bêtes de La Fontaine. Le lion est toujours noble, le goupil toujours renard, et le loup isengrin, et le corbeau tiercelin, et les autres à l'avenant. Or, s'il est difficile de se prononcer pour le lion, on peut toutefois reconnaître que certaines psychologies générales, bien que toutes objectivées et trop humainement, sont à peu près justes. Mais par contre, combien sont calomniés le bouc querelleur hardi et galant, qui n'apparaît que comme un gros bêta, et le corbeau, ce beau philosophe cynique, dans le cerveau duquel s'accumulent l'expérience et la sagesse des années, peut-être d'un siècle, l'oiseau intelligent, rusé, courageux et méfiant. Il est vrai qu'il est roué par un maître, ce qui serait une circonstance atténuante. Au reste, il serait également injuste de conclure que La Fontaine ne connaissait rien des animaux et de la nature. Il les a vus quelquefois, il les a devinés, mais il ne les a pas observés. Il les a vus à travers les apologues d'Ésope, il les a devinés à travers son imagination et ses rêves de poète. Mais ce serait, je crois, le calomnier que de vouloir affirmer que ce rêveur, ce fantaisiste charmant, qui fut souvent un misanthrope cruel, ait pu se plier à des disciplines aussi sévères que celles auxquelles s'assujettissent les naturalistes et les entomologistes. La Fontaine a quelquefois vu réellement les animaux, et ce qu'il en a vu, il a exprimé en notules charmantes dont chatoient ses fables. La gent trotte-menu, la gent marécageuse, ça l'a caché sous les eaux, dans les joncs et les roseaux, dans les trous du marécage. J'ai sauté à dessein, gent fort sotte et fort peureuse, qui est bien une calomnie gratuite envers le bon petit peuple vert qui réjouissait les yeux de Maurice Rollinat. Une mouche survient, et des chevaux s'approchent, piquent l'un, piquent l'autre, etc. Mais tout ceci apparaît dans les récits non comme la matière première sur laquelle il table et dont il déduit des actes logiques conformes au génie de l'animal. Ce ne sont que des enjolivures, d'agréables superfluités, dont il fleurit et redore le cadre fané de la fable antique. Pourtant, s'il a vu quelquefois réellement, d'autres fois il a cru voir, et souvent aussi, ce qui n'est pas plus grave, il n'a vu ni recherché à voir, et narré pourtant comme s'il avait réellement observé. Prenons par exemple le début de La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, chanté, chanté. Ah, il y aurait beaucoup à dire sur le chant des dans ces bêtes. Enfin, on peut admettre que le bruit aigu de membranes situées sous le ventre est une manifestation de joie. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Ce qui laisserait croire que la cigale se nourrit de vermisseaux et de mouches, et ce serait lui supposer bon estomac. En aucune fable, nous ne voyons La Fontaine prendre un animal et le suivre jusqu'au bout, enregistrer successivement les actions diverses qu'il accomplit et les raconter. Son procédé est plus simple. Quand il ne se contente pas de rajeunir en racontant à sa façon la fable d'Ésope, il part d'un fait particulier, observé ou non, d'une situation réelle ou imaginaire de l'animal, et de là le fait agir comme un homme selon le caractère conventionnel qui lui est conféré. Ainsi, dans le coche et la mouche, il voit une ou plusieurs mouches bourdonner autour des chevaux, les agacer, et immédiatement il assimile la mouche au cocher qui excite l'animal sans rien faire pour l'aider. Il ne cherche pas le pourquoi de la tactique de la mouche. Il en brode une à sa fantaisie, une fantaisie humaine, charmante d'ailleurs, lui permettant d'arriver à soutenir une thèse qui lui est chère. Et il n'a peut-être pas tort d'agir ainsi. D'abord, aurait-il pu faire autrement? Je ne le crois pas. Mais voyez-vous, le poète se demandait à quel mobile de conservation ou de reproduction obéit l'insecte, à rechercher si c'est pour pomper sa nourriture dans le sang du cheval ou plutôt, comme le fait l'œstre bouillonnante qui est très certainement l'héroïne de son histoire, si ce n'est pas pour agglutiner des œufs aux endroits de la peau que lâche l'animal, parce qu'un instinct mystérieux l'avertit que le cheval avalera les larmes écloses et qu'une fois fixées dans son estomac, elles se nourriront, puis, parvenues à la développement, se décrocheront, seront entraînées en dehors avec les excréments et deviendront, après quelques autres métamorphoses nouvelles, des insectes ailés. Combien nous serait gâtée cette fable sautillante et pleine de verve, ou plutôt non, elle ne serait pas gâtée, pour la bonne et simple raison qu'elle n'aurait pas pu être composée. La Fontaine a préféré en induire que, puisque le bourdonnement de la mouche leur était importun à lui et aux 10 chevaux, ce que la mouche avait l'intention bien arrêtée de les agacer, et cela dans le but très utilitaire et humain de forcer les chevaux à gravir le chemin montant, sablonneux, malaisé, où s'est engagé le coche. Il a donc bien fait, sans doute. Peu lui chaud également de faire descendre seul le renard au fond du puits, pour l'en faire tirer par le loup ou par le bouc. Et il ne s'arrête pas un seul instant à se demander si le renard se laisserait prendre à une telle artifice aussi grossier. Il ne s'occupera pas davantage de savoir si un chien portant une proie la lâchera pour l'image reflétée dans la rivière. Et ceci dénote chez lui, autant que chez Ésope, son maître, une totale ignorance du caractère des instincts et de la sensibilité du chien. Y avait-il pourtant pour lui, qui était de bon chasseur, passionné, un animal plus facile à observer? Non, il se contente de le faire passer au cours de ses divers récits pour un bon animal, fidèle, assez bêta, assez niais, ne faisant le mal que lorsqu'il y est contraint, se ressouvenant des injures, juste assez pour laisser faire ce qui est parfaitement humain, puisque conforme au principe du moindre effort. La vengeance était déjà une vedette d'effort. Mais s'il avait observé le chien avec la pénétration que lui supposaient ses biographes et ses admirateurs, il aurait su qu'un chien, même tout jeune, sait ce que c'est que l'eau, et ne lâche dans aucun liquide la proie qu'il a conquise. D'abord, un chien portant une proie à sa gueule a nettement le sentiment d'une victoire. Il dresse la tête et, sans rien voir au-delà, va chercher un endroit paisible pour la manger à son aise. Il ne s'arrêtera donc pas au bord de l'eau. En second lieu, ce qui est presque impossible, si même il s'est distrait de sa besogne par une apparition fortuite dans un miroir, il ne se dessaisira pas de sa proie avant de s'être préalablement assuré qu'elle est en sûreté. Il aurait dû savoir aussi que tout étant dans un état extrême du chien, c'est son nez d'abord, avant ses yeux, que le chien se fie, et qu'il aurait avant de lâcher sa proie, flairer l'image qu'il voyait dans l'onde. Car si l'on présente un miroir à un chien, il ne s'y contemplera pas avec son nez et qu'avec ses yeux. Il viendra flairer la glace, puis, ne humant rien, après s'être heurté le museau contre le verre, tournera derrière pour compléter une observation sur laquelle on peut être sûr, son opinion est déjà faite. Enfin, si le chien avait voulu posséder la proie que reflétait la rivière, il aurait commencé par dévorer gloutonnement celle qu'il tenait dans sa gueule pour se jeter sur l'autre ensuite. On pourrait, sur la presque totalité des fables, se livrer à des exercices analogues à ceux-ci et qui montreraient que l'observation des bêtes était bien le moindre des soucis du poète. L'observation, d'ailleurs, nécessite de l'attention, une méthode. La Fontaine était, je crois, trop poète pour être capable de l'un ou de l'autre. Sa fantaisie partait en campagne sur un fait lu ou observé. Il en tirait ce qu'il voulait, et nous aurions tort de nous en plaindre, car on ne voit pas bien à quel résultat littéraire il serait arrivé s'il avait voulu, avec un tempérament aussi capricieux que le sien, faire de l'observation pure et simple. Non pas qu'il soit impossible à un poète d'arriver, en partant de là, à écrire des œuvres somme toute intéressantes, n'en déplaise à quelques cuistres aigris, rares ou jaloux, qui ne connaissaient guère en fait de bêtes que celles qui hantent les cabinets de rédaction. Mais pour faire œuvre d'art, partant de données exclusivement expérimentales, il faut supporter des travaux scientifiques, des dissertations animales, des sections animales, des observations multiples, un tas d'études préalables, qui certainement n'étaient pas faites à temps, au temps où vivait La Fontaine. Il eut tout au moins fait supposer, fallu une philosophie qui ne refusait pas aux animaux la moindre faculté, pas même la sensibilité. Et bien que La Fontaine parut un peu fronder les doctrines cartésiennes fort en honneur à son époque, il n'en est pas moins vrai qu'il en subissait l'influence et qu'il n'eût pas été le moins du monde ému en entendant Malebranche, je crois, justifier ou plutôt expliquer les coups de pied dont hurlait sa chienne prête à mettre bas en prétendant que cela ne sentait pas. Et puis, La Fontaine était de l'Académie, il était l'ami de Molière, de Racine et de Boileau, par qui il respirait, bien qu'il vécût un peu à l'écart. L'ère du siècle, et ce grand siècle, n'a pas, tout au moins dans la sphère académique et officielle dont il faisait partie, le sentiment de la nature. Il fut un siècle d'analyse, et La Fontaine, tout comme Racine et Molière et La Bruyère, fut un psychologue humain et peignit les hommes sous la forme allégorique plus adéquate à son génie. Une étude de psychologie animale eût été absolument contraire au but qu'il se proposait. Il était trop pribesautier, trop indiscipliné pour suivre et étudier un caractère durant 4 ou 5 actes consécutifs. Il aurait eu de la peine, d'ailleurs, à faire entendre aux courtisans et aux rois les dures vérités qu'il faisait passer sur le dos du lion, du tigre, de l'ours ou de quelque autre puissance. Il préféra calomnier les bêtes pour médire des hommes en toute tranquillité. Enfin, il visait une morale si large qu'elle fût, Et pour voir juste dans l'observation, s'il faut une autre méthode pour ne pas regarder ailleurs, il ne faut pas chasser les besicles, chausser les besicles épaisses de l'utilitarisme, du kantisme ou de n'importe quelle philosophie ennisme. À quelle conclusion morale lui conduit la psychologie animale? À des conclusions tout autres que celles auxquelles il visait, ou même pas de conclusion du tout. Il ne pouvait donc pas, il ne devait pas s'en embarrasser. Il y a dans La Fontaine beaucoup de jolies observations, le plus souvent ciselées en expressions lapidaires, dont quelques-unes déjà sont devenues populaires et courantes. Je laisse à quelques savants érudits le soin de les séparer du reste. Ce serait un travail délicieux à faire, car je n'imagine pas qu'on puisse supposer que j'ai voulu ici le moins du monde attaquer La Fontaine. Dépouillé de sa perruque de bonhomme, de sa défroque de naturaliste, il reste ce qu'il était, un poète.